Alors, il est toujours bon de remettre dans le contexte un passage de l'Écriture et singulièrement de l'Évangile que nous venons d'entendre. Nous sommes au chapitre 18e de Saint Matthieu et c'est le moment où Jésus forme ses disciples. Vous vous souvenez qu'avant, il y a eu des grands moments, il y a eu le moment de la transfiguration, il y a eu le moment de la confession de Pierre, qui pour vous, qui suis-je? Et voilà, tu es le Fils du Dieu vivant. Voilà, c'est ces moments très fondateurs, un certain nombre de miracles. Et là, Jésus enseigne ses disciples et les enseigne sur un thème qui est délicat, qui est celui du pardon. Intéressant de voir l'insistance que le Seigneur met dans tout l'Évangile concernant le pardon, beaucoup plus que pour des questions de mœurs, voilà, où il n'insiste pas, on se rappelle la femme adultère, va et ne pêche plus, mais on ne voit pas qu'il n'y a pas d'insistance, mais la dureté de cœur, là il y a une vraie insistance. Pardonner, premièrement faire une distinction qui n'est pas une petite distinction, pardonner n'est pas se réconcilier. On peut pardonner, qui est une démarche personnelle, sans se réconcilier, parce que se réconcilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un agresseur rencontre un agressé, son agressé, voilà, et que les deux fassent un chemin l'un vers l'autre. Alors bien sûr, on fait mémoire de la grande réconciliation franco-allemande, qui est unique dans l'histoire du monde, dans l'histoire des nations, absolument unique. Deux pays frontaliers, trois guerres, hein, et puis maintenant cette véritable réconciliation, vraiment quelque chose de très puissant, menée par des grands chrétiens, il faut aussi le dire. Il n'y a pas eu de réconciliation, vous voyez, par exemple en Asie, entre la Corée et le Japon. Hein, le Japon n'a jamais demandé pardon à la Corée d'avoir déporté beaucoup de femmes, entre autres en prostitution, etc. Donc, c'est pas pareil, pardon et réconciliation. À quoi voit-on qu'on a pardonné? Peut-être deux critères. Deux critères. Premièrement, penser à l'autre, à l'agresseur, paisiblement, à celui qui m'a fait souffrir. Donc, vraiment reconnaître, j'ai eu une souffrance. Cette personne m'a fait souffrir. C'est important parce qu'il y a des gens, vous leur demandez pardon, non, c'est rien, ça, non. On reconnaît que l'autre m'a fait souffrir. On se reconnaît agressé et on reconnaît que l'autre est agresseur parce que ça c'est important. Donc reconnaître qu'on a souffert, mais penser à l'autre paisiblement. Moi, je crois que c'est un des critères. On voit qu'on a pardonné, qu'on sait une sorte d'apaisement qui arrive dans le cœur. On n'est pas en pensant à l'autre, on peut avoir des pensées mauvaises. Le penser dans un hachoir à viande, par exemple, un truc comme ça. Donc voilà, on voit bien qu'on peut avoir des pensées très violentes contre des gens qui nous ont fait du mal, Eh bien, on pardonne quand on pense à l'autre paisiblement. Il y a un apaisement qui arrive. Et puis, j'allais dire un peu plus loin, on pourrait dire pardonner, c'est se réjouir du bien que l'autre rencontre, que l'autre vit, sous l'agresseur. Et s'attrister du mal qu'il affecte. Par exemple, si j'apprends que mon agresseur a un cancer, je ne vais pas dire « Ah ben enfin, il y a une justice sur Terre ». Et ça se dit « Vous n'êtes pas complètement pardonné, vous n'êtes pas complètement apaisé », par exemple. Donc, je pense que ces deux critères-là, ça peut être intéressant de se dire « Voilà, c'est de... » Maintenant, la réconciliation, c'est un chemin, voilà, c'est deux volontés qui se rencontrent, c'est quelque chose de tout à fait autre. Mais ça démarre d'abord, pour ça que Jésus parle de pardon, et ça démarre de remettre les offrandes, ça démarre d'abord un chemin personnel. Maintenant, cette question de répétition, j'aimerais bien méditer avec vous là-dessus. Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. 7 fois, 7, évidemment, vous faites le lien avec le nombre de jours de la création, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau lien qui se crée, si j'ai déjà pardonné 7 fois, ce qui n'est pas si mal, mais 70 fois 7 fois, c'est-à-dire que le fait d'une répétition infinie, et peut-être on peut dire comme ça, de la répétition naît la nouveauté, de la répétition naît la différence. Et regardez bien, nos liturgies sont faites de répétitions. Une liturgie de la messe, par exemple, Vous ne dites pas, tiens, qu'est-ce qui va se passer à la messe? Vous savez, grosso modo, si vous êtes pratiquant, dans quel ordre ça va se passer, etc. On ne va pas commencer par la communion. On va... Voilà, il y a une répétition dans la liturgie qui permet justement, comme une pluie douce, de venir irriguer la terre. Et je trouve ça important, la répétition. De la répétition naît la nouveauté, naît quelque chose de neuf. Hein, c'est très fort, et on voit bien que Jésus est juif, c'est très fort dans la mentalité juive. Hein. Nous sommes, vous savez, au mois de septembre, c'est un mois très important pour le judaïsme, avec ce qu'on appelle Rosh Hashanah, le début de l'année. On est en l'année 5591 pour le calendrier juif. Et puis, il y a Yom Kippour, le grand pardon. Et dans Yom Kippour, il y a cette répétition, nous avons péché contre toi, etc., 10 fois. Et le fait de cette répétition fait que quelque chose, un regard neuf advient. Quelque chose de nouveau se met en place. Comme dans la répétition de nos liturgies, qui peuvent paraître à certaines heures un peu, particulièrement à nos chers adolescents, un petit peu difficile à porter, mais la répétition, au début, tu la supportes, après c'est elle qui te porte. Parce que ça vient installer dans le cœur comme ce qu'on appelle un habitus, c'est-à-dire une manière de voir différente. Hein, qu'est-ce que serait notre vie sans toutes ces eucharisties auxquelles nous avons participé et qui, de façon invisible mais réelle, ont modifié notre cœur. Et j'entends dans ce que dit le Seigneur, il dit, pour avoir un regard neuf, c'est pas de la première fois. Et en même temps, c'est plein d'espérance. C'est pas de la première fois que où on aura pardonné, on aura reconnu l'offense, et puis si l'autre revient et réappuie sur la blessure, etc. C'est pas du premier coup qu'on va avoir un regard neuf. C'est la répétition des pardons intérieurs qui va faire que la différence du regard, la nouveauté du regard va advenir. Vous voyez, moi, je vois ça comme ça. Je trouve ça très beau, je trouve ça c'est un peu comme dans la confession, pour ceux qui se confessent assez régulièrement, grosso modo, on dit toujours la même chose. Alors vous me direz, le prêtre ne vous demande pas de faire dans l'originalité, mon père, hey, j'ai tué quelqu'un, vous allez voir, vous n'allez pas vous embêter, etc. Non, ça, c'est pas ça l'objectif de la confession. Mais 70 fois, on redit les mêmes choses, parce qu'en redisant les mêmes choses, on se remet dans une situation de pauvreté, on a manqué de patience, on a ceci, on a cela, etc. Bon, des tas de choses que l'on dit habituellement dans les confessions, mais du coup, en redisant régulièrement, premièrement, le fait de dire fait que la parole met à l'extérieur, et donc ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire le péché, n'est plus à l'intérieur. C'est aussi intéressant. Hein, le fait d'extérioriser par la parole. Et puis, le fait de répéter fait que progressivement, la grâce de Dieu, ce sont des sacrements, je vous ai parlé de l'Eucharistie, de la réconciliation, ce sont des sacrements dans la foi catholique, et qui, justement, installent une manière de voir nouvelle, c'est une pédagogie, ce sont des sources de vie. Hein, et c'est intéressant de voir Saint Paul qui dit dans la deuxième lecture, dans notre vie, dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Hein, pour devenir, le Christ a connu la mort et la vie, pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mort à travers la blessure, à travers l'offense, ça c'est sûr. Il faut le reconnaître. Il faut en faire le deuil. Il y a quelque chose qui était mort. Il y avait un lien. Eh bien, la blessure a rendu ce lien... la blessure a été mortifère. Il n'y a plus de vie dans ce lien. Mais le pardon va permettre justement de retourner vers la vie, va permettre de rendre vivant, en tout cas, de mon point de vue, un lien qui était déjà dans la fosse. C'est puissant, hein, et c'est là où on voit que c'est une grâce, et c'est là où on voit qu'on a besoin de la répétition, parce que notre cœur est dur, parce que la rancœur, elle est là aussi, bien sûr que oui, la rancœur, la colère, tout ça, mais il y a des blessures qui sont très, très violente aussi à porter, des 30 blessures de vie qui ont... Mais je trouve ça intéressant que Jésus nous dise, ben voilà, ne vous découragez pas. Hein, il dit, ne vous découragez pas, remettez le métier sur l'ouvrage 70 fois cette fois, voilà, c'est... Et puis, à un moment donné, il y aura quelque chose de nouveau, il y aura une grâce qui adviendra. C'est notre foi. C'est notre foi. Et c'est par cette foi-là que nous avons accès justement à la miséricorde. Au contraire, si on laisse s'installer, c'est la première lecture, si on laisse s'installer la rancœur en nous, la violence, hein, c'est la haine, eh bien, c'est elle qui va vous dévorer. Je me souviens ce monsieur qui avait perdu son épouse dans l'attentat du Bataclan. Il avait écrit un article. Je ne sais pas s'il était catholique ou pas, j'en sais rien. Et l'article, le titre, c'était « Vous n'aurez pas ma haine ». C'est profondément chrétien. Comme Charlie Hebdo, vous vous rappelez les attentats de Charlie Hebdo, la une de Charlie Hebdo après les attentats, Charlie Hebdo qu'on ne peut pas soupçonner de vouloir d'être un sous-marin du Vatican, etc. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et qui écrivait « Tout est pardonné ». Bien, ça édifie. Même si c'est Charlie Hebdo qui est un peu olé olé par moment, mais... vous voyez, il y a des gens, je trouve que c'est des témoignages comme ça, de personnes qui ne viennent pas, qui ne partagent peut-être pas notre foi, hein, mais qui nous édifient. Qui rendent le monde meilleur. Qui repermet une vie, qui vitalise ce qui était dévitalisé justement. C'est pas rien le pardon. C'est pour ça qu'on demande au début de la messe la miséricorde. Donc, voilà, on reconnaît nos fautes et on supplie la grâce d'un cœur tendre, hein. Non pas un cœur de pierre, c'est un cœur de chair, mais c'est une grâce, et c'est une grâce qui s'acquiert, oui, qui est une grâce, on ne peut pas l'acquérir, mais en tout cas, on s'y prédispose par la répétition des actes. Soixante-dix fois cette fois. De cette répétition naît une nouveauté. De cette répétition naît la vie. Fait de nous des vivants. Revivifie les liens. Même si l'autre ne connaît pas, j'ai d'abord un chemin. Toute réconciliation passera de toute façon par un chemin personnel. De toute façon. Alors on va demander cette grâce au Seigneur, les uns pour les autres, pouvoir le vivre dans nos familles, parce qu'on voit bien que c'est pas toujours évident, le pouvoir vivre dans nos communautés, communautés paroissiales, communautés d'église, etc., communautés religieuses, dans nos ambiances aussi de travail, On a pu être blessé par quelqu'un qui nous a traité injustement, qui nous a peut-être cassé la carrière, une carrière, j'en sais rien. Voilà. Et ce témoignage de chrétien, voilà. Vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma rancœur. 70 fois, 7 fois. Amen.